Le silence se fait, c'est donc le signe qu'il faut commencer. Bonsoir à tous, et bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, pour cette 75e soirée d'éthique publique, la 5e de cette année universitaire, en partenariat avec la revue Études. Merci à vous qui êtes là, et à tous nos amis qui, en différents lieux de France, de Grèce, en direct ou en différé, suivent aussi cette soirée. Je crois qu'avec tout ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, les soirées d'éthique publique ne sont pas prêtes de devenir inutiles, ni de manquer de thèmes à aborder. Vous vous souvenez qu'en novembre dernier, nous nous étions arrêtés avec Philippe Portier, Charles de Courson et Marie-Noëlle Lindemann sur le texte des évêques « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Bien, je crois que la lecture du document des évêques est plus que jamais d'actualité. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés avec Pascal Boniface et Douglas Herbert quels enjeux internationaux attendent la France et l'Europe. Le mois prochain, en partenariat avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, nous prendrons un peu de recul par rapport à une actualité peut-être trop immédiate, pour aborder un sujet important dans l'évolution de notre société, je veux parler de notre rapport à l'alimentation. L'alimentation comme défi de santé publique. Cela touche à beaucoup de choses, à la malbouffe, à l'obésité, à l'hygiène de vie. Ça touche aussi au lien entre agriculture et alimentation, et donc à nos choix de société en ce domaine. Un sujet donc important, santé et alimentation, le mardi 7 mars. Ce soir, eh bien, c'est de justice que nous parlerons, ou plus exactement de l'état de la justice dans notre pays. On a souvent une image assez sombre, peut-être trop sombre, de la situation de la justice. On pense immédiatement à l'encombrement des tribunaux, au manque de moyens, mais aussi aux réformes controversées, à la mise en cause du pouvoir des juges, aux inquiétudes quant à l'état de droit. Alors, à l'approche des prochaines échéances électorales, il convient de faire un état des lieux de la justice dans notre pays et de regarder les principaux enjeux qui se posent pour l'avenir de l'institution judiciaire. Et peut-être, à travers cela aussi, de déplacer un certain nombre de nos conceptions et de nos questions. Ça touche bien sûr au fonctionnement ordinaire, je dirais, du service public de la justice, aux moyens et aux réformes faites ou à faire pour améliorer les choses. Mais c'est aussi l'occasion de regarder comment évolue notre société dans son souci de justice, dans son souci de préserver les droits et les libertés des citoyens. La question se pose évidemment dans la période qui est la nôtre, avec les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour nous aider dans cette réflexion et répondre à nos questions, je suis particulièrement heureux d'accueillir en votre nom nos deux invités. D'abord, Maître Paul-Albert Rivens, vous êtes avocat depuis 1973 au barreau de Paris. Vous avez vu l'évolution de la justice et de votre profession au fur et à mesure des années, et vous en avez été un observateur engagé, si je puis dire, puisque vous avez été bâtonnier du barreau de Paris au début des années 2000, puis président du Conseil national des barreaux, qui est l'instance qui en quelque sorte représente l'ensemble des avocats français de 2006 à 2009. Vous êtes notamment intervenu dans différentes affaires, affaires de presse ou affaires pénales financières telles que celle des ciments français, de la Cogedim, du Crédit Lyonnais ou encore récemment dans l'affaire Clearstream pour la défense de Jean-Louis Gergorin. Et plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion déjà de vous connaître un peu par vos libres opinions et chroniques publiées par Le Monde ou Le Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec nous également M. Denis Salas, vous êtes magistrat. Votre carrière dans la magistrature vous a notamment conduit à être juge des enfants, puis juge d'instruction. Vous êtes actuellement vice-président au tribunal de grande instance de Paris. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'Institut des hautes études sur la justice, maître de conférence à l'École nationale de la magistrature. Depuis des années, vous réfléchissez sur le rôle de la justice et du droit pénal dans les sociétés démocratiques, notamment à travers la revue Les Cahiers de la Justice, dont vous êtes le directeur éditorial, mais aussi comme président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous enseignez également à Paris 1 et Paris 2 et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je ne retiendrai ce soir que celui intitulé « La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires » aux éditions Les Arènes en 2012. Et votre dernier article dans la revue Études, « La banalisation dangereuse de l'état d'urgence » c'est dans le numéro du mois de mars dernier. Je signale aussi votre blog imagedejustice.fr. Merci d'être avec nous ce soir dans un agenda que je sais bien chargé. Voilà, sans plus attendre, donc je laisse la parole à nos invités. L'état de la justice en France, constat et enjeu, 20 minutes environ, chacun, avant, comme nous en avons l'habitude, le débat avec la salle. Et je laisse d'abord la parole à Monsieur Salas.
Merci beaucoup de cette présentation. Je vais un petit peu déplacer le centre de gravité des questions qui vous ont été soumises ce soir. Je parlerai, chemin faisant, des questions institutionnelles et des moyens de la justice, bien évidemment, et puis on pourra effectivement en discuter par la suite dans le débat. Mais je vais centrer mon propos sur l'évolution qu'a connue notre justice pendant le quinquennat qui est en train de s'achever. Ça me semble un point de départ, un point d'analyse, un point d'observation intéressant. Donc j'aurai trois points dans mon exposé. D'abord, je voudrais parler du moment Taubira, ce qu'il a représenté, si vous voulez, quand Mme Taubira a pris ses fonctions à la chancellerie. Et puis ensuite, la rupture introduite par les attentats de 2015 et 2016 dans ce cheminement. Et puis aujourd'hui, évidemment, le retour des affaires politico-financières qui interpellent à nouveau la justice d'une manière tout à fait spectaculaire, comme vous pouvez en constater tous les jours dans la presse. Alors ce moment intéressant, parce que nous l'avons vécu les uns et les autres de très près, ce moment du retournement de conjoncture avec le ministère de Mme Taubira, parce que au début de ce quinquennat, la magistrature en particulier était totalement désorientée, si vous voulez, par les années, la conduite des affaires dans les années précédentes. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Justice dévoyée », le titre en lui-même, si vous voulez, est tout un programme, je ne vais pas y revenir. Mais il fallait effectivement redonner confiance à cette institution et briser, si vous voulez, le climat de défiance qui s'était installé pendant les années précédentes. Et effectivement, on a vu une méthode de travail très très différente qui s'est instaurée, qui a fait le pari d'une intelligence collective et qui a mis en mouvement, si vous voulez, le corps judiciaire pour lui permettre de trouver les réformes qui correspondaient à ses vœux. Juste une réflexion très intéressante sur le sens de la peine, dont j'ai souvent parlé dans la revue Études, qui a été instaurée à ce moment-là, non pas une peine, si vous voulez, qui serait le fruit d'un populisme pénal de circonstances, mais au contraire une peine qui serait fondée sur une raison criminologique, un savoir criminologique. C'était le pari qui avait été tenté par les conférences de consensus des années 2012 et 2013. De ces années, il reste, je dirais, un symbole, la suppression des peines automatiques, qui permettait de condamner automatiquement les délinquants récidivistes. Et une idée forte, dont on pourrait peut-être reparler, la justice restauratrice, celle qui restaure, en quelque sorte, les équilibres rompus dans la société. Et puis une peine peu appliquée, une peine qui s'appelle la contrainte pénale, qui était faite pour éviter l'incarcération, ce qui n'a pas empêché l'incarcération de continuer sa progression pendant ces années. Et puis aussi, une nouvelle réflexion sur le rôle de la justice dans la société tout entière. Il n'était plus question d'attendre tout du juge en particulier. Et la réflexion s'est orientée vers la contribution que peut apporter la société tout entière, ses professions, les avocats, les médiateurs, les notaires, dans la construction d'une œuvre de justice commune. Et là, vous avez vu, on y travaille encore aujourd'hui, le divorce sans juge, en tout cas les divorces avec consentement mutuel, a fait son apparition, les notaires ont fait leur apparition sur ce terrain, et puis la médiation, le droit dit collaboratif, où les avocats vont éponger les conflits avant qu'ils n'arrivent en justice, une nouvelle sensibilité, si vous voulez, qui est apparue dans l'appréhension par la société des litiges, des conflits, des souffrances sociales qui peuvent effectivement être liées à la séparation. La justice, c'est avant tout le règlement des conflits, mais c'est aussi la séparation à l'œuvre, notamment dans le champ civil. Donc on a découvert, si vous voulez, une nouvelle orientation où la justice du XXIe siècle n'était pas une justice centrée essentiellement sur la figure du juge uniquement, mais au contraire sur le corps judiciaire, les barreaux, le milieu de la recherche aussi, qui a été fortement sollicité, les universités, les associations, bref, un ensemble de partenaires qui devraient concourir à cette justice de demain. Mais alors, pour ce qui me concerne aujourd'hui, je voudrais signaler deux points particuliers. La réarticulation des relations entre justice et politique au début de ce quinquennat. Il y a eu un point très important. À ce moment-là, on sortait de plusieurs années où le parquet, si vous voulez, c'est la porte d'entrée de la justice, pour le dire très très schématiquement. Si vous fermez cette porte, rien ne rentre, rien ne se passe. Si vous l'ouvrez, les affaires rentrent, y compris les affaires importantes. Les années précédentes, la porte était fermée parce que l'exécutif contrôlait le procureur. Ce qu'a apporté le début de ce quinquennat, c'est que cette porte s'est ouverte et qu'on a décidé que le parquet devait être impartial et indépendant. En particulier, une loi de 2013 a supprimé les instructions individuelles, hein, où le pouvoir politique pouvait donner des instructions au parquet, et au contraire, a posé un principe d'impartialité du procureur. C'est important par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, je terminerai là-dessus tout à l'heure, qui effectivement déverrouille en quelque sorte la porte d'entrée de la justice, alors que préalablement, le procureur, le ministère de la Justice, s'auto-proclamait chef de la justice ou chef des parquets. Donc cette relation verticale entre la justice, ses procureurs et l'exécutif a été profondément remodelée et en quelque sorte recomposée, hein, dans le sens de l'autonomie, par cette loi de 2013. Donc il y a là une première chose importante, et la deuxième chose, c'était un échec, puisqu'on avait envisagé, si vous voulez, que les nominations de ces procureurs pouvaient être le fait d'un conseil supérieur de la magistrature, donc une instance indépendante de l'exécutif. Malheureusement, certains ont pu le suivre dans la presse, cette réforme constitutionnelle n'a pas pu aboutir au cours de ce quinquennat. Donc il y a eu malgré tout, malgré cet échec, une nouvelle grammaire, si vous voulez, des relations entre justice et politique qui s'est instaurée au début de ce quinquennat et qui a pu très largement introduire une nouvelle donne dans ce très vieux débat, hein, je ne vais pas revenir à l'histoire, entre justice et politique. J'ajoute un autre point, juste pour vous faire un tableau complet, la nouvelle sensibilité à l'égard de la prison et de la peine qui est apparue. On n'a pas voulu, si vous voulez, à ce moment-là, mettre le droit pénal à la remorque de l'opinion publique et des effervescences collectives qu'il y avait autour des faits divers ou des affaires qui pouvaient sortir dans la presse. On a voulu, au contraire, repenser la peine et la prison à partir d'une réalité criminologique. Donc on a rassemblé au cours de ces conférences de consensus dont je parlais tout à l'heure un savoir criminologique qui permettait effectivement de repenser les fondements de la peine, ce qui permettait de ne pas le penser uniquement le délinquant sous le prisme de l'individu dangereux, mais le penser aussi sous un angle social, avec une volonté de réinsertion, de travail, de démarche, de capacité, de projet et de responsabilité active. La sécurité ne se conçoit plus sans l'autre, l'individu dangereux, qu'il faut éliminer, mais avec l'autre qui sera jugé responsable et capable. C'est une mutation, je dirais philosophique, de la conception de la peine qui s'est instaurée à ce moment-là. La peine vous rend passif, la réinsertion, c'est tout autre affaire, ça vous rend actif. Et cette position d'activité malgré la charge pénale qui pèse sur vous était un pari qu'il fallait réaliser et qui a été effectivement tenté à ce moment-là, et qui se traduit aujourd'hui par une peine qui est trop peu appliquée, la contrainte pénale, sur laquelle je reviendrai éventuellement s'il y a des questions. Alors, ensuite, c'est mon deuxième moment, et là, il y a eu une rupture, c'est les attentats de 2015 qui ont, en quelque sorte, brisé cet élan et qui ont, au contraire, fait réapparaître celui qui avait disparu du paysage initial, qui est l'individu dangereux, le terroriste, celui qui menace notre sécurité, avec effectivement ce climat d'union sacrée qui a été déclenché par les attentats de janvier et de novembre 2015, qui a effectivement occupé le pays tout entier. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu réapparaître des concepts qu'on croyait oubliés. En particulier, les juges sont habitués à juger des faits, des infractions ou des crimes. Là, ce qu'on a vu apparaître, en particulier à partir de l'état d'urgence qui a été instauré en novembre 2015 et qui est toujours en vigueur aujourd'hui jusqu'en juillet 2017, c'est-à-dire qu'il y aura une durée de 20 mois, ce qu'on n'avait jamais vu depuis la guerre d'Algérie, eh bien, cet état d'urgence a fait réapparaître le comportement menaçant. Celui qui va, effectivement, par son attitude, par son comportement, menacer notre sécurité et va incriminer le comportement menaçant tel qu'il apparaît à tous ceux qui peuvent effectivement en avoir connaissance. Donc vous avez là une nouvelle sensibilité au crime qui n'est pas liée au fait criminel, mais qui est liée à la menace criminelle. Et la justice va être sollicitée, si vous voulez, non pas sur la répression, mais sur la prédiction de l'attentat lui-même, qui pourrait se produire, et sur des critères de prédiction qui pourraient être évalués notamment par le renseignement qui a fait l'objet d'une loi en fin 2016. Donc vous avez eu à partir de là, effectivement, des mesures extrêmement importantes qui ont commencé à apparaître, l'assignation à résidence, les perquisitions de nuit au cours de l'état d'urgence, et avec, si vous voulez, une position extrêmement ambiguë du Parlement, puisque d'un côté, vous aviez une volonté politique commune de maintenir cet état d'urgence le temps nécessaire, et en même temps, le Parlement, dans ses commissions d'évaluation, nous disait, au bout de 3 mois, il n'y a plus de nécessité de le prolonger, les mesures sont ineffectives, et qui, en même temps, quand il s'agit de les voter à chaque fois qu'il y a eu un attentat nouveau, non seulement a suivi le gouvernement, mais a devancé le gouvernement dans les durées qui ont été proposées. Donc une désactivation du contre-pouvoir parlementaire qui a été sollicité, si vous voulez, sur le versant, au contraire, de l'accélération de la mesure répressive. Donc un contrôle parlementaire paradoxal. Le juge qui était chargé du contrôle de l'état d'urgence, le juge administratif, lui, a réalisé, en tout cas progressivement, un contrôle moi que je trouve assez satisfaisant puisque un tiers des mesures ont été annulées et beaucoup ont été abrogées, mais le juge judiciaire a été totalement évacué de la scène parce qu'on considérait que le fait de priver de liberté, de priver d'attenter à des libertés par des assignations à résidence ne relevait pas de la justice judiciaire qui était compétente exclusivement de la privation de liberté. Cette distinction subtile, très discutable à mon avis, a écarté le judiciaire du contrôle de l'état d'urgence et a donné au juge administratif plein pouvoir. La différence est très importante. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes assigné à résidence ou quand vous êtes perquisitionné, vous pouvez effectivement faire un recours, mais a posteriori, après, une fois que la mesure est faite. Tandis que dans le droit pénal habituel, qui décide de la perquisition ? C'est un procureur ou c'est un juge d'instruction. C'est tout à fait différent. Celui qui est en charge du respect des libertés individuelles. Donc voilà la différence entre ces deux régimes est extrêmement importante et qui est totalement banalisée aujourd'hui. Ça n'apparaît absolument pas, ni dans les primaires, ni dans la campagne électorale, alors que nous sommes le seul pays en Europe qui a une telle durée exorbitante de l'état d'urgence. Alors, je vois que le temps approche. Le, le, les, le temps avance, pardon, les contre-pouvoirs se sont organisés tout de même. Et ça, il faut quand même en dire un mot. Il y a eu à la fois la réaction qui s'est opérée face à l'état d'urgence d'un côté, mais aussi aux lois antiterroristes dont je n'ai pas eu le temps de parler de l'autre. Il y a eu effectivement des contre-pouvoirs qui se sont organisés. Il y a eu une protestation des hauts magistrats qui était exceptionnelle dans notre histoire, qui ont regretté publiquement d'être totalement écartés du contrôle de cette procédure. Il y a eu ce débat récent, cette loi récente sur la pénalisation de la consultation des sites terroristes, de la consultation habituelle des sites terroristes. Et j'ai vu l'autre jour la plaidoirie de François Sureau au Conseil constitutionnel qui montre à quel point cette incrimination porte atteinte à la liberté d'informer de tout un chacun, si vous voulez, puisqu'elle incrimine le fait simplement de consulter un site terroriste. Et si vous êtes incriminé, il faudra démontrer votre bonne foi. Et il montre bien, si vous voulez, que... on est là dans une rupture absolue avec le principe de l'égalité des délits et des peines qui date de l'époque des Lumières et forte citation de Beccaria dans cette plaidoirie très, très intéressante. Et puis il faudrait aussi évoquer la mobilisation aujourd'hui en faveur de l'entraide des étrangers qui ne sont pas tous des pseudo-terroristes mais qui est très intéressante aussi parce qu'elle conteste une incrimination qui est utilisée pour pénaliser les déplacements transfrontaliers au risque que effectivement il s'agirait des terroristes mais aussi en violation d'une loi interprétée d'une manière extrêmement ambiguë par ceux qui sont chargés des poursuites. Donc vous avez des contre-pouvoirs qui s'organisent aujourd'hui, et ça me semble quand même un signe de vitalité de notre démocratie, et qui, je dirais, sont extrêmement importants dans la conduite de ces affaires. Alors, j'arrive à mon dernier point, qui est la dernière partie de ce quinquennat, et le retour, si vous voulez, des affaires et du qu'on avait observé au début du quinquennat, c'est-à-dire l'indépendance des procureurs. Hein ? Et vous voyez réapparaître une institution, le Parquet National Financier, le PNF, aujourd'hui, qui est une institution extrêmement légère, il y a une quinzaine de magistrats, chargés du contrôle des affaires, de la poursuite des affaires politico-financières, qui vont avancer sur le terrain de la lutte contre la corruption. Et je peux quand même dire, si vous voulez, que si vous n'aviez pas positionné le parquet dans une position d'indépendance par rapport à l'exécutif, vous n'auriez jamais pu envisager un seul instant d'avoir une telle, à la fois une telle avancée de cette institution et en même temps une telle rapidité puisque comme vous l'avez vu dans l'affaire qu'on appelle du Penelope Gate le parquet financier s'est saisi le jour même ou le lendemain de la publication dans la presse de l'article du canard enchaîné. Donc une rapidité dont on n'avait jamais vu jusque-là, on n'avait jamais mesuré jusque-là l'importance. Donc, ce qui veut dire que, et c'est le point important, mais c'est quelque chose qui appartient au long terme de notre démocratie, que l'institution judiciaire, à travers ce type d'intervention, va contrôler elle-même l'éthique politique, si vous voulez. L'éthique politique faisait l'objet d'un autocontrôle jusqu'à présent. Pas le temps de remonter dans l'histoire, mais c'était quelque chose qui était généré par ces institutions. Et là, on voit très bien que dans différentes affaires politico-financières, c'est la justice qui va s'autoriser, en quelque sorte, du fait qu'elle est indépendante et impartiale, à intervenir sur le champ de l'éthique politique, mouvement de longue portée, de très ancien, mais qui aujourd'hui apparaît en pleine lumière, puisqu'on réintroduit, en quelque sorte, la probité là où régnait l'impunité. On pourrait ajouter les différentes affaires, l'affaire Big Malion, qui est également qui concerne un ancien président de la République, la condamnation effective d'un ancien ministre de l'Intérieur à 2 ans d'emprisonnement pour s'être attribué des primes occultes, et puis la condamnation d'un ancien ministre du budget à 3 ans d'emprisonnement par un tribunal correctionnel pour des comptes offshore. Donc on a là un ensemble de décisions qui rétablissent a posteriori une éthique manquante dans la pratique politique, soit dans la pratique gouvernementale, soit dans le droit parlementaire, soit dans les fonctions périphériques. Et alors, cette évolution apparaît à contrario dans les juridictions, je dirais, d'exception, du type Cour de justice de la République, avec l'affaire qui concerne l'ancienne directrice du FMI, enfin la directrice, pardon, du FMI, Madame Lagarde, qui a été jugée pour négligence, comme vous en souvenez, une négligence qui coûte à l'État 400 millions d'euros, je le rappelle, et qui a été condamnée à une dispense de peine. Une dispense de peine par une juridiction, la Cour de justice de la République, qui est une juridiction de l'entre-soi, de pair, hein, politique pour l'essentiel, et qui a été en plus promise à la disparition par le président de la République. Donc vous avez là, et alors quand vous lisez la décision, elle est très intéressante parce que vous avez une dispense de peine d'un côté, qui est la décision qui a été rendue, et en même temps des motivations qui vous disent non, c'est effectivement une dispense de peine, mais c'est beaucoup plus grave qu'une négligence. Hein. On évoque une conjonction de fautes au-delà de la simple négligence. Hein. Donc un malaise manifestement dans cette juridiction qui, dans ses motifs, contredit en quelque sorte sa propre décision, d'autant que les collaborateurs de l'intéressé, eux, sont sur les bancs de la correctionnelle et sont accablés par des mots beaucoup plus lourds que négligence. Ils sont accablés par des mots comme escroquerie en bande organisée, c'est une toute autre affaire, évidemment. Et alors, simplement, pour conclure tout à fait, puisqu'on arrive au bout, la justice a avancé dans 2 directions. J'ai évoqué tout à l'heure le parquet national financier d'un côté, mais il faut aussi évoquer la Haute Autorité pour la Transparence et la Déontologie, qui agit dans le registre de la prévention des conflits d'intérêts. Et puis, pour en terminer avec le Parquet National Financier, le PNF, à mon avis, si vous voulez, son intérêt, c'est qu'il agit dans un temps médiatique, un temps rapide, peut-être trop rapide, on verra ce qu'il en résulte, mais enfin, il y avait un calendrier électoral extrêmement, extrêmement serré. Et vous avez non pas un juge qui avance, un chevalier blanc en quelque sorte, qui avance vers son objectif, mais une institution, un collectif, qui a été créé par une volonté politique, qui devient in fine le dépositaire du contrôle de l'éthique publique et qui va porter sur un point central de notre démocratie, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel, qui est l'axe même de notre système, du système de la Ve République, qui est aujourd'hui qui sera presque l'âme de la Ve République, c'est l'élection au suffrage universel du président de la République, qui est elle aussi aspirée dans la spirale du discrédit qui ronge nos institutions. Donc nous sommes dans une, je termine complètement, nous sommes dans une situation où la légitimité politique en elle-même ne suffit pas à fonder, l'action politique. On peut effectivement se référer au fait qu'on a été élu lors des primaires par 4 millions de votants, mais on sent bien que cette légitimité n'est pas suffisante pour fonder une position politique que l'on ambitionne. Il faut aussi accepter une légitimité par le droit, une légitimité par la probité, une légitimité qui est conférée par le juge en l'occurrence, et dans l'acceptation de la sanction qui peut éventuellement intervenir, sans effectivement repousser tout cela comme étant un tribunal médiatique ou une incompétence tout à fait secondaire. Voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, nous sommes à un tournant, je dirais, dans l'évolution de nos institutions. La justice prend toute sa place aujourd'hui, mais vous avez vu que ça vient du début du quinquennat et des réformes qui ont été faites à l'origine, et qu'aujourd'hui nous avons la conséquence de cette réforme à travers l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, et qu'elle vient, si vous voulez, en collision frontale avec le cœur même de la Ve République, qui est l'élection du président de la République. Pour la suite, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qui va devenir, mais nous allons peut-être en discuter tout à l'heure. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Salas, de nous avoir partagé votre regard sur l'évolution de la justice pendant le quinquennat qui s'achève. On a bien en tête ces trois moments, le moment Taubira, et ce que ça a représenté comme nouvelle méthode de travail, de réflexion sur la justice plus large que seulement la figure du juge, avec notamment la réouverture des portes du parquet et la nouvelle sensibilité vis-à-vis de la prison et de la peine. Et puis il y a cette rupture des attentats 2015-2016 avec les conséquences de l'état d'urgence qui va s'attacher notamment, vous l'avez dit, au comportement menaçant et aux critères de prédiction. Et cette situation où vous avez vu la désactivation du pouvoir parlementaire sur ces mesures. Et puis le troisième moment, celui dans lequel nous sommes, le retour des affaires politico-financières, où l'on voit la justice qui est désormais amenée à contrôler l'éthique politique. Et ça, évidemment, c'est un moment important que nous vivons aujourd'hui. Nul doute que votre relecture très intéressante va susciter tout à l'heure le débat. Alors, je suis heureux de passer la parole à Maître Ivens, qui va nous donner son propre regard aussi sur l'état de la justice.
Vous m'avez convié à parler d'un sujet extrêmement étroit. L'état de la justice en France, constat et enjeu. Et vous avez 20 minutes. C'est un vaste sujet, aurait dit le général de Gaulle. Et je pourrais commencer par ce qui se dit. La France va mal, la justice va mal. Elle va mal parce qu'elle elle manque de moyens, elle est lente, elle est chère, elle manque de transparence, elle dépend du pouvoir, quoi qu'on ait pu en dire. Et c'est vrai que c'est le sentiment un peu général de la population à propos de la justice. Et bien, quitte à vous surprendre, alors que je suis avocat et que je devrais notamment être extrêmement critique sur tous ces sujets, je dirais que ce sont des critiques qui sont, en l'état, de moins en moins fondées et qui, en tous les cas, ne devraient pas retenir notre attention trop longtemps. La justice est un peu lente, oui, mais c'est nécessaire. La justice qui est rapide, ça s'appelle la justice expéditive. Alors je sais bien qu'à la période du smartphone, on aimerait, et du désir immédiatement accompli, on aimerait avoir tout de suite ce que l'on voudrait, mais ça c'est la loi du Lynch. Qu'on prenne son temps, qu'on prenne du recul sur un fait que la justice a à juger, c'est une bonne chose. Et cela vaut pour la justice civile comme pour la justice pénale. La justice est chère, c'est vrai. Il faudrait que la France fasse un effort considérable en matière d'aide juridictionnelle. Le budget de l'aide juridictionnelle en France, c'est 1/20 par rapport au budget de l'aide juridictionnelle en Angleterre. C'est juste pour vous donner une petite idée, 1/20. Donc, en gros, il n'y a que les plus pauvres qui peuvent en bénéficier. Les véritables personnes qui sont en demande de justice, qui sont les classes moyennes, ont, c'est vrai, des difficultés d'accès à la justice. Il y a là un problème, mais qui est un problème budgétaire, c'est donc pas un vrai problème. La justice manque de transparence. Alors ça, c'est le secret de l'instruction. Je ne sais pas si vous considérez qu'il existe, mais chacun sait aujourd'hui ce qui se passe dans toutes les affaires. C'est d'ailleurs assez surprenant. Enfin, ce n'est pas surprenant pour qui suit un peu les affaires. Les fuites sont toujours dirigées dans le même sens. Elles sont essentiellement le fait de policiers ou de certains magistrats qui y ont pris goût, puisqu'ils ont découvert que c'était une façon d'être un contre-pouvoir. Donner des informations à la presse peut permettre à une affaire de progresser contre la volonté des uns ou des autres. C'est un petit jeu. Moi, je regrette que ces violations ne cessent de se retrouver en première page de nos journaux, parce que la présomption d'innocence, c'est quand même un droit, et que ces fuites sont toujours dirigées. Je n'ai jamais vu de fuite objective, en dehors, bien entendu, des communiqués du procureur, et notamment M. Molins nous fait de remarquables exposés sur les affaires de terrorisme, qui sont d'une parfaite objectivité, avec le langage, on est allé jusqu'au buisson conspiratif, des services de police dans leurs procès-verbaux de synthèse. Mais en dehors de ça, dès qu'une affaire est un peu vivante, et on en a évoqué une, on sait d'où viennent les fuites et comment elles sont utilisées. Donc moi, que la justice garde un peu de secret, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que la justice manque d'indépendance? Vous avez entendu dire que, grâce à Mme Taubira, c'était terminé. Enfin, heureusement, M. Sadas n'a pas été aussi complet. Mais soyons clairs, c'est vrai qu'on a fait de très grands progrès, pas simplement d'ailleurs grâce à Mme Taubira, mais notamment grâce à Mme Taubira, que les magistrats se sentent plus libres qu'ils ne l'étaient, mais il reste un lien de dépendance entre le parquet et le ministère de la Justice, qui fait que, dans les affaires que l'on va qualifier de sensibles, le lien n'est absolument pas coupé, et on ne peut pas dire, hélas, que la justice soit aujourd'hui indépendante, mais on a fait d'énormes progrès, donc cessons de trop dire que rien ne va. J'observe, en revanche, que on n'a pas l'habitude de dire du bien de sa justice, et notamment que les magistrats que la France à installer dans ces différents tribunaux sont dans l'ensemble d'honnêtes gens, sont dans l'ensemble des gens bien formés, et que la justice française n'est pas corrompue. Alors, ça vous surprend peut-être que je vous parle d'absence de corruption, mais sachez que dans beaucoup de pays au monde, y compris de grandes démocraties, la corruption est un véritable problème pour la magistrature. Eh bien non, nous avons une magistrature qui ne connaît pas exceptionnellement des affaires de corruption. De temps en temps, félicitons-nous de ce qui marche dans ce pays. Alors vous allez être surpris parce que vous vous dites, mais finalement tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourquoi? Parce que moi je vais me placer dans un temps plus long que le quinquennat, qui est toujours un peu réducteur. Depuis une vingtaine d'années, on est en train de glisser imperceptiblement d'un état de droit qui était solidement établi, et M. Sadas en a parlé, et sous prétexte à une sorte d'état de droit qui a l'odeur de l'état de droit, qui a la couleur de l'état de droit, mais qui n'en est plus. Et j'avoue ma grande inquiétude sur les glissements que le législateur, sous la pression de l'opinion, ce glissement est opéré sous cette pression du législateur et de l'opinion vers un État de plus en plus répressif. L'État de droit, c'est quoi? C'est la sécurité pour les citoyens d'être jugés dans des conditions normales, d'être poursuivi pour des faits qu'on a pu ou pu ne pas commettre, et d'avoir l'occasion de s'en défendre dans des conditions correctes, admissibles pour tout le monde. Ça s'appelle les droits de la défense. Eh bien, les droits de la défense, depuis une trentaine d'années, sont en péril, je le dis, et je sais que je m'attirerai des contradictions sur ce point, dans ce pays depuis une trentaine d'années par différents glissements procéduraux. Le droit de fond a été récemment modifié, mais le droit procédural a été modifié de façon plus constante et imperceptible depuis une trentaine d'années. Dans une démocratie, il devrait y avoir un relatif équilibre entre les droits de l'accusation et les droits de la défense. Toute personne poursuivie devrait avoir un temps raisonnable pour se préparer à comparaître devant un juge. Et avant, sans doute beaucoup d'entre vous ont quelques notions de droit, donc je vais pouvoir essayer d'aller plus vite sur ce sujet. Avant, les choses étaient assez claires. Il y avait le procureur qui lançait des poursuites, et il avait le choix, soit si l'affaire était simple, de traduire directement la personne devant le tribunal, c'est ce qu'on appelait la citation directe, soit, ce qu'on l'appelle toujours d'ailleurs, soit si l'affaire était complexe et qu'elle nécessitait des investigations, le procureur devait faire nommer un juge d'instruction, c'est ce qu'on appelle l'instruction pénale. Et le juge d'instruction, qui est un juge du siège, c'est-à-dire que ce n'est pas un accusateur, c'est un magistrat chargé de juger, qui pesait le pour et le contre, qui prenait ou non des mesures un peu agressive dans le cadre de ces investigations. Seul le juge d'instruction pouvait, par exemple, aller chercher un témoin. Seul le juge d'instruction pouvait ordonner des écoutes téléphoniques. Les perquisitions n'étaient possibles qu'à la demande, sur mandat d'un juge d'instruction, sauf consentement de la personne que les policiers étaient très malins pour obtenir. Bref, il y avait quand même d'un côté le parquet qui, pour les affaires simples, poursuivait directement, et de l'autre côté, lorsque ça devenait compliqué, un juge d'instruction qui, lui, était censé peser un peu plus les choses. Et la différence, évidemment, importante entre ces deux types de procédures, c'est que dans la citation directe, eh bien, la personne découvrait le dossier, son avocat découvrait le dossier quelque temps avant l'audience, c'est-à-dire qu'elle ne participe absolument pas à l'enquête. Donc, les droits de la défense étaient un peu malmenés, mais ça se rattrapait par le fait qu'on était dans des affaires simples et claires. Il n'y avait pas besoin de se casser la tête. Alors que dès qu'une affaire était complexe, elle venait à l'instruction et la personne mise en cause avait tout de suite droit à un avocat. Cet avocat avait accès au dossier, pouvait entamer un dialogue avec le juge, demander des investigations. On arrivait quand même à une recherche de la vérité qui était au moins contradictoire. Et tout ça, ça déplaisait parce que, évidemment, on prend toujours le motif du temps qu'on perd à s'occuper de défendre les gens, ça manquait à l'efficacité. Et donc, l'efficacité a fait que, peu à peu, et on assistait à ce glissement en toute matière, le parquet a pris de l'importance et il s'est mis à ouvrir de moins en moins d'informations judiciaires. On désigne de moins en moins les juges d'instruction. On va de plus en plus directement devant le juge sur citation directe. En toute matière, on voit arriver des dossiers financiers qui font 10 tomes, ça m'est arrivé, qui arrivent comme ça et le client n'a pas eu accès au dossier pendant une enquête qui a pu durer 4 ans sous la seule responsabilité du parquet, et ça arrive à l'audience. Ça pose problème. Ça pose d'autant plus problème que le parquet, qui n'a pas l'indépendance comme je le rappelais tout à l'heure, peut, de sa propre initiative, mener des investigations qui sont intrusives, les écoutes téléphoniques, les perquisitions. On a finalement donné au parquet ce qu'on donnait avant au juge du siège. Alors il y a, pour les mesures les plus intrusives, la nécessaire autorisation du JLD, le juge de la liberté et de la détention, qui est certes un juge du siège, mais le malheureux, on lui apporte 5 tomes et on lui dit qu'il faut faire une perquisition. On ne lui demande pas de connaître le dossier, il fait confiance à son collègue. C'est ainsi, malheureusement, que ça fonctionne. Donc la petite autorisation de mesure intrusive n'est pas une garantie des libertés fondamentales. Vous le vivez d'ailleurs aujourd'hui dans l'affaire Fillon. Elle est accélérée, certes, mais vous avez pu constater, quoi qu'on en pense, il y a sûrement beaucoup à en penser, que les avocats de M. Fillon sont les seuls à ne pas avoir accès au dossier. Les journalistes y ont accès, manifestement, puisqu'ils font des articles tous les jours sur les déclarations des uns et des autres. Le parquet et les policiers y ont bien entendu accès. Les avocats, non, parce qu'on est dans une procédure menée à l'initiative du procureur. Et donc, quand c'est le procureur, il y a le secret de l'enquête, comme il y avait le secret de l'instruction. Mais l'avocat n'y a pas accès. Ils y auront accès. Soit si M. Fillon est un jour convoqué par un juge d'instruction comme témoin assisté ou comme mis en examen, soit s'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, alors là, 10 jours avant l'audience, ils auront accès aux investigations sans avoir pu agir auparavant, demander des actions au parquet, qu'on entende telle ou telle personne, etc. Donc, premier point, renforcement considérable des pouvoirs du parquet au préjudice de celui des juges d'instruction, puisque l'instruction, ça dure trop longtemps, il y a trop de droits de la défense. Alors soyons efficaces, c'est pas la peine qu'il y ait des droits de la défense, renvoyons rapidement ou lentement, mais de toutes les façons, ne nous encombrons pas du juge du siège, et ça fait 10 ans que ça dure dans l'indifférence la plus générale. Et ça atteint son paroxysme dans la procédure dite des flagrants délits. Vous connaissez tous les flagrants délits, vous avez entendu parler de ça. Il y avait une excellente émission de France Inter qui y était consacrée. Le flagrant délit, c'était quoi au départ? C'était le délit flagrant, comme son mot l'indique, c'est-à-dire une personne prise la main dans le sac par la police ou par des témoins ou poursuivie par la rumeur publique, disait la jurisprudence. Donc, il n'y avait pas de problème de culpabilité. Pour des petits délits, le vol à l'arraché, le vol à l'étalage, le vol à la roulotte, c'est dans les voitures. Bon, celui-là, eh bien, on le prenait et on le faisait comparaître très rapidement, dans les 48 heures, devant un tribunal correctionnel. Et il allait en prison, c'était assez classique, pour des petites peines. Le vagabondage était à certains moments puni sous le régime des flagrants délits. Alors c'était une justice qui marchait bien. Et donc elle a donné des idées. Et ça a commencé avec l'excellent M. Chalandon, qui a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on reste sur les flagrants délits ? Finalement, on pourrait y mettre toute la petite délinquance. Il n'y a pas besoin de... » Et on s'est mis à mettre toute la petite délinquance. Là, ce n'est pas des gens qu'on vient d'arrêter, c'est des gens qui ont fait l'objet d'une enquête pendant un certain temps. Mais enfin, on considère que c'est très simple. Allez, hop, on l'arrête, 48 heures après, il est jugé. Et puis on a trouvé que ça marchait tellement bien qu'on a créé 4 chambres à Paris. Et puis on a dit, mais finalement, les petits délits, bon, c'est rare, mais on va passer de 5 à 7 ans. Et puis de 7 à 10 ans. Et au mois de novembre dernier, il y a un monsieur qui a pris 15 ans au flagrant délit à Créteil. C'est-à-dire qu'il a été arrêté, il a passé 48 heures en garde à vue, il a été présenté le lendemain devant un tribunal correctionnel, il a pris 15 ans pour des viols intrafamiliaux correctionnalisés. Donc on lui a fait une fleur, n'est-ce pas ? On n'a pas fait passer aux assises. Mais vous imaginez ce type de justice où vous passez 3 jours finalement avec les policiers et les juges pour partir 15 ans en détention. Et ces comparutions immédiates, parce que maintenant ça s'appelle comparution immédiate, ça ne peut plus s'appeler flagrant délit, à qui s'applique-t-elle ? Évidemment à une délinquance jeune et bronzée pour l'essentiel, ceux qui font l'objet des contrôles d'identité, etc. Allez à la 23e ou la 24e chambre au tribunal de Paris, les audiences sont publiques. Vous allez les voir comparaître à la chaîne pour des délits qui sont, attention, je ne justifie rien, sont des délits extrêmement désagréables, les délits de rue. Mais ils prennent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils partent au trou. On m'a dit, je n'ose penser que c'est vrai, mais finalement, il faut qu'on vérifie, que la moitié des prisons françaises seraient actuellement peuplées de gens qui ont été condamnés par les flagrants délits parisiens. Alors, ça donne quoi ? Ça donne des gens qui ont donc passé 48 heures au commissariat, présentés au parquet, jugés le lendemain, avec un avocat de permanence. Je ne dis pas que les avocats de permanence sont moins bons que les autres, mais quand vous avez, ça m'est arrivé comme secrétaire de la conférence il y a bien longtemps, mais quand vous avez à défendre 20 personnes dans l'après-midi, vous n'avez pas forcément fait l'effort de personnalisation, de travail et d'études parfaites du dossier, même si le dossier n'est pas très important. Quand vous avez à juger des viols intrafamiliaux, vous imaginez ce que ça peut être. Ça donne quoi ? Ça donne des gens qui considèrent qu'ils ont été mal jugés. Tous ces jeunes là, dont je vous parlais tout à l'heure. Ils passent, quand ils ne travaillent pas, ils passent leur après-midi à regarder la télévision où on voit des procès américains, votre honneur, d'ailleurs ils disent souvent votre honneur au magistrat, et où, pour un vol de poule, il y a des témoins, etc. Parce que vous savez que le système américain est extraordinaire quand vous plaidez not guilty. Quand vous plaidez guilty, vous négociez. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre que 90% des procès américains n'existent pas. Ils sont négociés entre le procureur et l'avocat. On peut reparler des caractères tout à fait déviants de ce type de procédure. Mais les 10% qui restent, alors là, c'est du luxe. Effectivement, vous avez des témoins, ça passe, on passe des heures, des expertises, etc. Et c'est l'idée que les gens ont de la justice. Vous aussi, puisque vous regardez la télévision de temps en temps, je suppose. Mais ces gamins, ils voient ça, et eux, ils vont partir 3 ans en tôle, alors qu'ils ont passé 48 heures à la police, et, allez, 13 à 15 minutes devant un juge. Ils se disent, mais j'ai pas été jugé. Et l'acceptation de la peine est évidemment capital pour la réinsertion. Celui qui considère qu'il n'a pas eu sa chance, eh bien, on en fait un enragé. Tous ces gamins-là qui font le foutoir le soir, c'est ça qu'ils dénoncent. Ils disent, moi, quand je fais une bêtise, etc., je vais au trou direct, et puis je ne suis pas vraiment... je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte de cela. Et alors, quand les mêmes comparent leur sort à ce qu'il m'arrive plus souvent de défendre, c'est-à-dire de la délinquance dite en col blanc, ou simplement de la délinquance d'honnêtes gens. Il arrive que les honnêtes gens délinquent. Et il voit des gens qui comparaissent pour des faits plus graves, mais 3-4 ans plus tard, parce qu'eux, ils ont eu la chance de passer à l'instruction. Ils passent 3 ou 4 ans plus tard et ils prennent du sursis. Ou mieux encore, ils prennent du ferme. On a dit que Cahuzac avait pris 3 ans ferme. Mais il n'est pas au trou, monsieur Cahuzac. Il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'il est au trou? Mais non, pas du tout, il a fait appel. C'est suspensif. Il pourra faire un pourvoi. Ça sera suspensif. Et puis, ça finira, je vais vous le dire tout de suite, je vous l'annonce, je ne suis pas Madame Soleil, ça va se terminer par 2 ans d'emprisonnement ferme. Vous serez content, vous direz, au moins il va y aller 2 ans. Non, non. Parce que jusqu'à 2 ans, on peut faire aménager sa peine. Mais celui qui est passé en comparution immédiate, il ne fait pas aménager sa peine. Parce qu'il compare et détenu, il a un mandat de dépôt. Ce qui fait qu'on a actuellement en France un système. Ce ne sont pas des propos de gauche ou de droite, ce sont des propos de liberté qui devraient tous nous concerner. On a un système à 2 vitesses qui est très clair. La petite délinquance, la délinquance de rue, elle trinque vraiment fort. Et la délinquance bien née, eh bien, elle peut se défendre puisque ça va à l'instruction, parce que, etc. Et elle va très, 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 très peu en prison. Moi, je n'ai pas un client en prison. Réfléchissons à ce que tout ceci peut donner à terme comme réflexion des uns et des autres. Avec évidemment la meilleure des excuses qui est la gestion des flux. Il faut gérer vite et satisfaire l'opinion. Enfin, dernier point, plus grave me semble-t-il encore, c'est les textes relatifs au terrorisme. Alors, dites, il n'a pas hurlé contre les textes. Non, je ne hurle pas contre les textes relatifs au terrorisme. Je considérais même que l'état d'urgence pouvait être justifié pour répondre à une émotion profonde et justifiée du peuple français pendant 3 mois. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'on le prolonge et puis on ne sait pas du tout quand ça sera terminé. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en état d'urgence? Non, parce que ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas barbu, vous n'êtes pas machin. Mais dites-vous qu'il y a un certain nombre de gens qui s'en rendent compte qu'ils sont en état d'urgence. Parce qu'ils ont une apparence qui n'est pas la vôtre. Et puis, les textes qui sont votés en matière de terrorisme recèlent chaque fois un petit détail qui échappe aux représentants de la nation, volontairement ou non, mais le plus souvent ils ne sont pas juristes. C'est qu'on vous dit que tous ces textes sont faits pour lutter contre le terrorisme. Tout le monde dit, alors, le terrorisme, on peut y aller. Bon. Et également, pour la prévention ou la lutte contre la délinquance en bande organisée. Ah, vous dites la délinquance en bande organisée, oui, etc. Mais si vous connaissez la définition de la Cour de cassation de la délinquance en bande organisée, pour être en bande organisée, il suffit d'être 2. Et même la Cour de cassation a considéré, quand on n'en trouvait qu'un, qui, du moment qu'on pouvait supposer qu'il y en avait un autre, la bande organisée pouvait être retenue comme circonstance aggravante. Donc, on est dans un domaine de flou absolu. Ça vous fait sourire, mais la fraude fiscale en bande organisée, il suffit d'avoir pris conseil de votre conseil fiscal, etc. Et donc, on se rend compte que tout un tas de textes, et notamment la loi sur le renseignement, qui a mis en place des méthodes extrêmement intrusives. On peut poser des micros chez vous, on peut poser des micros dans votre voiture et la géolocalisation de votre voiture, on peut vous perquisitionner de nuit, etc. Toute cette loi sur le renseignement, elle est applicable aux terroristes. Ah, très bien. Et à la délinquance en bande organisée. Méfiez-vous, si vous employez votre femme de ménage au noir, qu'on ne soupçonne pas par là une délinquance en bande organisée et qu'on n'en profite pas pour coller un micro chez vous. J'exagère, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les moyens, et c'est ma véritable inquiétude, c'est que les moyens juridiques existent, ils ont été votés par un Parlement qui ne se pose plus de questions, qui, sous la pression de l'opinion et de la volonté sécuritaire, est prêt à voter n'importe quoi. Les moyens existent pour que si demain, Madame Le Pen ou un candidat d'extrême-gauche arrive au pouvoir, ils n'ont pas besoin de modifier la législation, elle est très bien. On peut parfaitement contrôler une population aujourd'hui avec les textes qui ont été votés. Et ça, c'est grave parce que personne n'en a conscience et tout le monde, au contraire, trouve ça très bien. Alors, il y a des gens, je vais terminer, il y a des gens qui s'en émeuvent, Il y a Jacques Toubon, le défenseur des droits, pas soupçonné d'être un gauchiste, qui pond rapport sur rapport en disant « Attention, attention, notre état de droit fout le camp », et tout le monde s'en moque. Et puis, nous avons les mêmes lectures, M. Salas et moi, il y a François Sureau, qui est un avocat au Conseil, qui dans cette décision, enfin cette plaidoirie contre le délit de consultation habituelle de sites islamiques, a dit les choses si bien que je vais me permettre de les lire en conclusion. Les temps sont difficiles, bien sûr, mais ceux de nos grands ancêtres ne l'étaient pas moins. L'idée informulée des gouvernements et des législateurs contemporains, c'est que les principes ne valent que par temps calme. C'est à l'évidence le contraire qui est vrai, et là-dessus nos prédécesseurs ne se trompaient pas. Là, ils citent Beccaria, et je vous en fais l'économie. La tristesse de ce temps ne tient pas seulement à ce climat de violence civile nouveau pour notre génération de citoyens, il tient aussi à l'évidente fragilité des grands principes dans notre conscience même. Il tient à la fréquence avec laquelle il nous faut désormais rappeler ces évidences qui renferment en elles-mêmes une part de notre honneur collectif. Les gouvernements ont cédé, les parlements ont cédé, personne, je crois, n'aurait pu, dans notre jeunesse nourrie de grands exemples et de drames du passé, imaginer qu'il céderait aussi facilement, par lâcheté, par inconséquence ou par calcul. Il est sûr que cela nous rendra moins sévères à l'égard de nos aînés, mais c'est une faible consolation.
Merci beaucoup, maître, de nous avoir donné votre avis sur l'état de la justice. D'abord, en partant de ce que l'on pense peut-être habituellement, sa lenteur, son coût, sa transparence, son indépendance, et vous avez rappelé, et finalement c'est important de l'entendre, que la justice française n'est pas corrompue, et d'avoir montré que, selon vous, l'enjeu, il est vraiment ailleurs, et que votre expérience vous amène à dire que depuis 20 ans, eh bien, on assiste à des glissements de l'état de droit sous la pression du législateur, sous la pression de l'opinion, et que pour vous, les droits de la défense, eh bien, sont maintenant en péril par différents glissements procéduraux, notamment par volonté d'efficacité. Alors, vous avez évoqué le renforcement des pouvoirs du parquet, l'extension de la notion de flagrant délit, le caractère expéditif du jugement et ses conséquences qui font un peu une justice à deux vitesses, et puis c'est évidemment la conséquence des textes contre le terrorisme. Merci de nous avoir aidé à prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'on ignore le plus souvent, en tout cas que moi j'ignorais, et qui vont sûrement alimenter nos réflexions et le débat qui va maintenant s'ouvrir. Alors, comme nous en avons l'habitude, nous allons faire passer le micro, recueillir quelques questions avant de redonner la parole à nos invités, et on va donner tout de suite la parole à Bordeaux, qui a toujours ce privilège de pouvoir poser une question.
Alors, au sujet des communiqués sur les affaires en cours à la presse, n'y a-t-il pas un code de déontologie qui prévoit un devoir de réserve ?
Voilà, on prend la question et on y répondra tout à l'heure.
La comprendre d'abord.
Alors, répète la question, Alix. C'est sur la déontologie des communiqués de presse.
Est-ce qu'il y a un code qui prévoit un devoir de réserve ?
De qui ?
Il précise.
De façon générale, d'accord.
Autre question ? Oui, devant, et puis après on prendra au milieu. Il y aura sûrement beaucoup de questions, monsieur.
Nos conférenciers, l'un et l'autre, ont cité élogieusement Maître Sureau. Que pense-t-il de son, s'ils l'ont lu, je l'espère, son article de La Croix d'aujourd'hui, dans lequel il rappelle que le respect de la séparation des pouvoirs est plus important que et qu'il applique d'évidence au cas dont on parle.
Voilà.
Je n'ai pas lu François Sureau dans La Croix cet après-midi. Mais je sais que c'est un ancien élève de Saint-Louis de Gonzague, donc il a de bonnes lectures.
Voilà, continuons à prendre des questions.
Précisez. Évidemment.
Parlez bien dans le micro. Hein,
oui, pardon. Son point, c'est que la séparation des pouvoirs qui fait que le parquet ne peut pas aller, n'a pas compétence pour aller voir ce que font les députés dans leur travail, est un principe constitutionnel, fondamental, et que c'est bien plus grave d'enfreindre cette séparation que de s'occuper de ce qui n'est apparemment pas un délit en plus, mais une faute morale.
Très bien, merci. On va prendre une troisième question. Merci, voilà, au milieu de la salle.
Oui, bonsoir. Merci pour cet éclairage très inquiétant, mais indispensable à connaître pour, en tant que citoyen. Je suis en correspondance épistolaire avec un jeune que j'ai connu quand il était catéchumène et qui est incarcéré pour un crime très grave. Et donc, je ne suis pas à convaincre de l'importance, bien sûr, de défendre les droits à la dignité des personnes incarcérées, qu'elles soient condamnées ou en préventive, des droits des personnes qui sont en garde à vue, etc. etc. Enfin, je tiens à le préciser, parce que par ailleurs, vous n'avez pas parlé du droit des victimes, et notamment des victimes qui ont de tout petits revenus et qui ont des difficultés à se défendre, à être défendues. Vous avez parlé de l'incurie de l'aide juridictionnelle, enfin du manque de moyens de l'aide juridictionnelle. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu développer le droit des victimes, notamment de ceux qui n'ont pas le moyen de se payer un bon avocat?
Merci, on va en rester là pour l'instant et on reprendra tout à l'heure plusieurs questions. Alors, il y a plusieurs choses autour de la déontologie, le devoir de réserve, je ne sais pas si...
Sur les trois questions, la première, si j'ai bien compris la question, vous vous étonnez, enfin, pas vous, mais la question que vous avez lue, de ces fuites dans la presse et de l'absence de prudence déontologique. Je sais que on peut pas non plus, si vous voulez, dénoncer le tribunal médiatique qu'on fait aujourd'hui, mais il y a quand même dans les médias aujourd'hui, presse écrite et presse audiovisuelle, soit des chartes de déontologie, soit des médiateurs. Je pense par exemple à la charte de déontologie de Ouest-France, par exemple, qui est très très importante et qui est effectivement suivie et appliqué. À la suite des dérapages qui ont eu lieu après les attentats, notamment de novembre, il y a eu à la fois un réflexe déontologique important qui a été généré par les contrôles et les sanctions du CSA. Donc il y a une police, je dirais, ou un contrôle déontologique où le CSA donne des décisions motivées qui sanctionnent les dérapages déontologiques. Moi, je suis plus scandalisé, pour tout vous dire, par un événement qui a eu lieu récemment, qui est le fait qu'on a donné le prix, alors je sais pas le prix de la presse, du photojournalisme, le prix, je dis bien, au photographe qui a photographié l'assassinat de l'ambassadeur de Russie par le bonhomme qui a été tué. On lui a donné le prix d'excellence, je dirais. Et le type est en train de brandir un pistolet, il vomit son nez, et le corps de l'ambassadeur est en bas. Et voilà, on lui donne... Alors là vraiment, je me pose des questions, parce que sur l'éthique journalistique et sur les jurés, enfin, qui donnent des prix à ce genre de photos, qui m'en rappelle d'autres dans des quotidiens tout à fait estimables, sans compter des sites internet. Mais là, je trouve que là, il y a une carence déontologique majeure dans les médias et dans ceux qui sont chargés de contrôler les médias ou de les récompenser, qui me semble vraiment devoir être revu, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si vous voulez, le terrorisme, il faut bien voir que le terrorisme est un message adressé à une population, à un gouvernement. Si vous lui donnez les moyens d'exprimer ce message d'une manière totalement démesurée grâce à des images mondialisées, évidemment, ça ne peut que renforcer ce mouvement naturel. Donc là, Régis Debray a dit des choses très très justes là-dessus, en évoquant les anarchistes des années 1880, qui utilisaient eux aussi les médias qui étaient à leur disposition, qui étaient le téléphone et le télégraphe. Mais ils avaient besoin du message pour faire passer leur signification de leurs actes. Donc là, non seulement ils ont le message, mais ils ont en plus des prix qui les récompense pour le message envoyé. Là, je pense que trop, c'est trop. Et si je prends votre question comme ça, si vous voulez un peu... j'ai dit du bien de Sureau, et vous avez dit aussi... je trouve admirable sa plaidoirie sur le délit de consultation des sites. Je pense que c'est grâce à cette plaidoirie que le législateur revoit actuellement le délit et tente de retoucher, mais je ne suis absolument pas d'accord avec son article de la Croix. Je suis désolé. Je suis désolé parce que, si vous voulez, et c'est le sens de ma démonstration tout à l'heure, si vous voulez, on ne peut pas à la fois considérer... Si vous voulez, c'est une question à la fois morale et légale. À partir du moment où une pratique qui est purement légale fait l'objet d'une désapprobation collective massive, on ne peut pas s'accrocher comme un fétiche, au nom de la séparation des pouvoirs, à cette... Non, vous jugez, si vous voulez, vous jugez, il faut bien voir que la corruption, elle peut être considérée comme parfaitement tolérée ou tolérable dans certaines sphères de la société. Mais dès lors que, globalement, la société, et on le voit dans cette affaire, désapprouve massivement un comportement, il faut relire Durkheim, le crime n'est pas... dans les textes, il est dans la réprobation collective. Et c'est ça la leçon de Durkheim. Et c'est ce que n'entend pas aujourd'hui certains. Donc vous avez là une réprobation collective qui doit être entendue. Ah non, non,
on a entendu.
Mais... Alors, la question des victimes, pour terminer, voilà. Mais après on discutera. Je peux répondre
allez-y,
aux victimes, parce que ça me semble très important. Je pense que... là, on est devant une mutation majeure, notamment en matière de terrorisme. La victime est un acteur décisif aujourd'hui du débat public. Ça n'a pas été sans mal. C'est un très long combat qu'a mené une association comme SOS Attentat dans les années 80, qu'a accompagné la politique d'aide aux victimes de Robert Badinter. Et si cette action a été menée, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un tissu d'associations qui vient en aide aux victimes dans notre pays, 180 associations, et des associations qui sont des associations de victimes, qui sont en quelque sorte les interlocuteurs du gouvernement dans les mesures qui sont aujourd'hui prises. Donc je pense que, et dans notre pays de surcroît, il y a une indemnisation du préjudice subi, et du préjudice intégral grâce à un fonds d'indemnisation qui est alimenté sur les contrats d'assurance. C'est un des rares pays où cela se produit. Donc je pense que les victimes ne sont pas oubliées, contrairement à ce que vous semblez suggérer, mais c'est une question. Hein.
Je pose la question.
Oui, oui, oui.
Non. Oui.
On a bien entendu.
Oui, voilà. Tout à fait.
On relance pas le débat.
Mais si vous voulez, vous avez tout à fait raison. Mais si vous voulez, là où je vous rejoins, c'est que la demande de la victime, elle est extrêmement forte et elle interpelle profondément la justice parce que c'est une demande de réparation, de vérité. Et également d'élucidation, si vous voulez, des faits. Et ces demandes-là ne peuvent pas, on ne peut pas y répondre d'une manière satisfaisante, d'autant que la victime est dans une position de vulnérabilité et d'extrême sensibilité par rapport à ce qui lui est arrivé, si vous voulez. Et du coup, effectivement, l'indifférence est perçue comme une agression parce qu'effectivement, cette sensibilité est extrêmement vive. Et je trouve que là, vous avez une réflexion à mener sur le statut de la victime, considéré d'un point de vue, je dirais, personnel et émotionnel, qu'on n'a pas tendance suffisamment à reconnaître. Vous avez, de ce point de vue-là, raison, mais on y travaille.
Merci. Maître.
Alors, sur la déontologie, bon, je crois que la déontologie, c'est très gentil, mais si les gens ne sont pas bien élevés, il faut faire toutes les chartes qu'on veut. Et puis, il y a une excellente excuse, c'est que le public a le droit de savoir. Donc, comme le public a le droit de savoir, vous pouvez faire signer toutes les chartes possibles et imaginables aux journalistes. c'est nous qui cherchons l'information sur les sites internet, c'est nous qui sommes heureux de voir telle ou telle photo, et c'est horrible, mais c'est ainsi. Je crois qu'il y a de l'éducation morale et civique sans doute à reprendre, mais là je n'apprends rien à personne. Et puis ça s'est un peu aggravé du point de vue des journalistes, par une protection que je respecte infiniment, et même je m'en félicite pour eux, qui est le secret des sources. Désormais, les journalistes sont totalement protégés quant à leurs sources. Et donc, un policier ou un magistrat qui donne un procès-verbal à un journaliste n'a plus rien à craindre, puisque le journaliste ne dira pas et rien ne pourra le contraindre à dire d'où vient l'information. Sur le plan de la séparation des pouvoirs de François Sureau, etc., là, mon cher ami, et je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, non pas sur la séparation des pouvoirs, parce que c'est un problème de droit constitutionnel sur lequel nous aurons les uns et les autres nos lectures, puisque les professeurs de droit constitutionnel sont comme tous les professeurs de droit et sont capables de faire une superbe consultation dans un sens ou dans l'autre selon celui qui la demande. Et nous sommes là sur un sujet qui est sans doute, qui peut être vu de plusieurs façons. En revanche, ce que vous avez dit tout à l'heure est proprement insupportable. Vous dites c'est immoral, donc c'est illégal. Oui. Ben non. Ah non, nous n'avons pas la même conception du droit.
Point de vue sociologique, oui, tout à fait.
Ah ben, là, on parle de droit pénal. Ce qui est illégal, c'est ce qui est interdit par la loi. C'est pas parce que si on se dit qu'est-ce qui est immoral...
Il y a de l'immoral dans l'illégal, c'est ça que vous ne comprenez pas.
Voilà, on va laisser
parler le maître. Non, mais... L'élément moral de l'infraction, ça existe, oui, mais dis-le ça.
Mais tout ce qui est immoral, pardon, n'est pas condamné par la loi. Heureusement. Parce que vous avez le droit d'avoir un comportement immoral qui n'est pas illicite. Et il faut quand même arrêter, on n'est pas chez Orwell, où des moralistes nous imposent des comportements à tout instant, etc. D'ailleurs, on y vient avec les caméras, les machins, les trucs chez vous, voilà. Préparez-vous à une société orwellienne, et on vous dictera votre comportement, et des gens... Non, je ne mets pas M. Salas dans cette catégorie-là, mais nous sommes arrivés dans une société totalement normée, où vous devez avoir un comportement parfaitement normal. Je me demande comment auraient vécu les poètes du 19e ou du début du 20e siècle aujourd'hui, puisqu'ils auraient été considérés comme fous, amoraux, innormaux. Non, attention, la loi est là pour dire voilà tel comportement que je punis d'une telle sanction, parce que le législateur a considéré que... Mais ne mettons pas de morale là-dedans, parce que vous allez aller très très loin, et je suis extrêmement inquiet. D'ailleurs, Monsieur Fillon dit c'est légal. Je ne suis pas sûr que ce soit légal, parce que si il a effectivement employé son épouse sans qu'elle ait travaillé pour lui, je ne suis pas venu pour débattre de l'affaire Fillon, hein, mais ce serait, quel que soit le régime de droit, illégal. Il m'importe peu que ce soit moral ou immoral. Et donc, attention, le droit pénal, c'est quelque chose qui doit être interprété strictement par les magistrats. Il arrive, heureusement, tous les jours, que des magistrats, voyant un comportement qui était immoral, mais qui n'est pas prévu par la loi, relaxent. Et c'est une des grandeurs de notre justice. À l'inverse, parce que la société évolue. Vous savez qu'on a condamné à des peines extrêmement graves pour avortement. Vous savez qu'on a condamné également pour homosexualité. Il y a des phénomènes inverses. La fraude fiscale, par exemple. Il n'y a pas énormément de jeunes dans la salle, je peux le dire, père.
Bon. Allez-y.
Pour ma génération, celle de mes parents, j'ai toujours été très honnête fiscalement. Mais non, je le dis. Notamment parce que j'ai des dossiers sensibles, donc je ne peux pas me permettre de ne pas être honnête fiscalement. Mais pour les gens qui m'entourent et mes parents, même s'ils étaient parfaitement honnêtes, c'était pas si mal de frauder le fisc. Encore un que le fisc ne verra pas. Bon. En France, comme en Italie, c'était un peu un sport national. Ça s'est tendu dans les dernières années seulement. Et quand vous voyez Cahuzac, je ne défends pas Cahuzac, qui est un type abominablement antipathique, mais qu'importe. Quand vous voyez Cahuzac qui est poursuivi pour des faits qui remontent à 20 ans, à l'époque où tout le monde considérait que c'était un sport national, et qui se prend 3 ans ferme, parce qu'aujourd'hui on considère que c'est grave, On peut aussi se poser la question. Mais là, il n'y a rien à dire, car au moment où il le fait, c'est déjà un délit, car la fraude fiscale est un délit depuis fort longtemps. Mais, entre nous, ce n'était pas considéré comme immoral par l'essentiel des Français. Dernier point, les victimes. Alors là, je vais fâcher notre interlocuteur. Je trouve que les victimes ont beaucoup trop de place dans le procès pénal aujourd'hui. Les victimes ont leur place, mais aujourd'hui, on arrive à construire des dossiers entièrement autour de la nécessaire reconstruction de la victime, ce qui est un but parfaitement légitime, mais on finit par oublier que le procès, c'est d'abord le procès de l'accusé, et dans le but de le condamner, bien sûr, s'il est coupable, et de chercher à le réinsérer. Or, vous assistez actuellement à des procès où, notamment, les associations de victimes, alors je ne parle pas des centres d'aide aux victimes auxquels M. Salas faisait allusion, qui sont très utiles et qui aident les victimes au quotidien, mais vous avez des associations qui se constituent pour lutter contre tous les crimes et délits et qui sont reconnus peu à peu par le Code pénal, l'article 2 du Code de procédure pénale qui dit qu'on ne peut se constituer que si on a subi un préjudice personnel et direct. Il est amendé tous les ans pour ajouter une association. On a commencé par le racisme et puis on continue le consommateur, le machin, le truc. Alors la pédophilie, n'en parlons pas. Alors vous avez des cas où à des audiences où comparaît, je ne vais pas dire un malheureux pédophile parce que c'est abominable d'être pédophile, mais où comparaît un pédophile, il a contre lui 5 associations de victimes qui sont l'enfance en danger, l'enfant bleu, le machin, le truc, des gens qui ont, à mon avis, rien à faire dans le débat, mais qui sont des procureurs implacables, puisqu'ils sont à l'audience et qu'en plus, il y a des journalistes. Et puis, il a le procureur, et lui, il a un avocat. Il peut en avoir 2, mais il faut les payer. Bon. Et donc, vous avez des audiences totalement déséquilibrées, sous prétexte que la victimisation doit être aujourd'hui célébrée. Eh bien non, la victime est une partie au procès pénal quand elle subit un préjudice personnel et direct qui doit avoir autant de droits que la personne poursuivie, mais pas plus. Et aujourd'hui, dans l'émotion qui nous guide en permanence, puisque nous ne vivons plus sur les faits, nous vivons dans l'émotion, eh bien, on assiste à des procès totalement déséquilibrés.
Merci. On va prendre des questions, mais juste oui. Une petite réaction brève à oui. Ce qui vient d'être dit.
Je pense que Maître Ivens raisonne par rapport à la victime, par rapport à une instrumentalisation de la victime ou des usages qui peuvent être effectivement pervers de la victime, de la figure de la victime dans le procès pénal. Et moi, je ne raisonne pas comme ça. Je pense que la victime a un rôle à jouer, indépendamment évidemment de ces dérapages qui existent et dont on voit effectivement ce que ça peut provoquer, au sein du procès pénal, et peut contribuer à faire avancer la recherche de la vérité dès le stade de l'instruction et au stade du procès. Ne confondons pas, si vous voulez, Maître Ivens, les usages pervers qui peuvent être faits d'une figure comme la victime et le rôle, la fonction qu'elle joue dans le procès pénal, notamment en tant que partie civile. Je pense que c'est une confusion tout à fait regrettable qui conduit à, malheureusement, à disqualifier la victime du procès, alors qu'il faut s'en féliciter, elle a toute sa place. Concernant le deuxième point de notre débat, très très brièvement, je m'explique si vous voulez. Il y a des comportements qui peuvent être parfaitement tolérés dans la société à un moment donné, et puis ensuite, parce que l'évolution des mœurs est ce qu'elle est, il y a une évolution. L'inceste, par exemple, était totalement toléré. Moi, j'ai commencé, vous avez dit, j'étais juge des enfants quand j'ai commencé. Eh bien, l'inceste n'était pas puni par la justice. Et j'avais des situations que j'avais en charge, effectivement, qu'il fallait se battre pour avoir des poursuites de ce chef. Et puis, la pédocriminalité, qui est aujourd'hui un scandale, il n'y a pas si longtemps que ça, la salle s'en souvient, certains avaient table ouverte à l'émission de Pivot, apostrophe, Gabriel Mazeff et d'autres, qui clamaient leurs amours décomposés, pour parler comme le faisait à l'époque Gabriel Mazeff. Et aujourd'hui, ce qui était toléré par la société, et de même la corruption politique, mais je n'ai pas voulu prendre cet exemple pour ne pas revenir dans nos débats, ces éléments-là, aujourd'hui, effectivement, passent dans la sphère de l'intolérable, parce qu'effectivement, la société, effectivement, le mouvement des victimes aussi, comme vous avez signalé, transforme en quelque sorte ces éléments-là en éléments qui peuvent être poursuivis, criminalisés ou intolérables. Donc voilà, on passe du tolérable à l'intolérable très rapidement aujourd'hui, parce que la société évolue et que ceux qui se taisaient à un moment donné, je pense aux victimes dont on parlait tout à l'heure en matière d'inceste ou de pédophilie, se mettent à parler et font basculer la société parce qu'elles dénoncent des abus qui ont été commis et se font entendre par les médias, par la société, et peuvent transformer la réaction sociale dans le sens qui serait favorable.
Merci. On reprend.
On a un droit pénal très évolutif.
Merci. On reprend des questions. Alors, on va prendre.
C'est dangereux.
Au milieu.
Je ne vous souhaite pas un code pénal qui change tous les jours, en fonction des émotions des uns et des autres.
Prenez votre question.
Oui,
allez-y.
S'il vous plaît. L'état de la justice en France a été concentré par vous au niveau des affaires politiques et du pénal, qui me semble être, sur le plan du nombre des affaires traitées par la justice, relativement minoritaire par rapport à la justice en général, qui concerne l'ensemble des Français, et que j'aimerais pour ma part rapporter par exemple au cas de la justice civile, notamment en ce qui concerne les tribunaux de commerce. Je serais beaucoup moins optimiste que vous pour dire qu'il n'y a pas de corruption en France, certainement pas d'enveloppe qui circule entre magistrats, mais une corruption des esprits, sûrement. Comment se fait-il que la France soit considérée, selon tous les classements internationaux, comme étant au 23e rang des pays développés en matière de lutte contre la corruption ? Et je ne vais prendre qu'un seul exemple en matière de procédure civile. Il y a un article 145 qui donne au juge la possibilité, et non le devoir, et tout est là, dans une procédure civile où il s'agit d'argent, hein, pas de savoir si on a franchi la ligne jaune, c'est beaucoup plus important, si je puis me permettre, pour les victimes, de régler un problème de dommage civil, eh bien le juge n'a que la possibilité, et non pas le devoir, de mener une enquête, comme il se fait au niveau du pénal, à la demande de l'une des parties. Ce qui fait que vous avez régulièrement des juges au civil qui vous délivrent une vérité judiciaire qu'on ne peut plus attaquer, mais qui peut n'avoir strictement rien à voir avec la vérité des faits.
Merci pour cette question importante. Alors, devant, et puis on ira tout au fond après.
Je voudrais revenir sur une partie du débat de la question, des questions précédentes. Il me semble extrêmement dangereux de dire que l'opinion publique fabrique le droit. Si on suivait ce mouvement, par exemple, en France, on rétablirait la peine de mort, parce qu'il y a une majorité qui désire que la peine de mort soit rétablie. Si on suit ce mouvement, on se dit, vous avez dit tout à l'heure, on n'admet plus certaines fautes éthiques. Mais la justice n'a pas à juger de l'éthique. L'éthique, ce n'est pas du domaine de la justice, c'est du domaine personnel, c'est du domaine du code moral. Alors là-dessus, je ne comprends pas du tout la position du président Salas.
Très bien, on reviendra dessus, merci. Il y avait une question, voilà, tout au fond.
Merci. Moi, j'aurais deux remarques et deux questions. La première remarque, c'est par rapport à la lenteur de la justice, au-delà des grandes théories, sur le terrain. On constate quand même que la France est l'un des pays, des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, qui est le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, à telle enseigne qu'aujourd'hui on ne peut même plus aller à la Cour européenne des droits de l'homme, après épuisement des voies de recours, qu'il faut d'abord aller faire un nouveau procès en responsabilité contre l'État. Donc là, il y a une première remarque que je voulais faire sur la lenteur de la justice en France, des procès qui durent 10 ans, 12 ans. Je suis injusticiable, je sais de quoi je parle. La deuxième remarque que je voulais faire par rapport à Taubira, c'est merveilleux. J'ai l'impression qu'on est revenu 35 ans en arrière à l'époque de M. Badinter, qui avait déjà parlé du sens de la peine, qui avait déjà parlé de tout ça, qui avait déjà mis en place une médiation pénale qui, certes, a été dévoyée par le parquet, qui en a fait un faux-nez, parce qu'aujourd'hui, on met des agresseurs et des victimes en face à face en essayant de leur demandant de trouver une solution, au lieu qu'on se retrouve devant un tribunal correctionnel qui, effectivement, pourrait dire qui est la victime et qui est l'agresseur, et en condamnant. Quant à la médiation familiale, n'en parlons même pas. C'est devenu une espèce de tarte à la crème que tous les juges aux affaires familiales, aujourd'hui, mettent en avant en disant trouver une solution, même quand on a parfois des personnes victimes de harcèlement, victimes victimes de violences et qui se retrouvent dans ce face-à-face par rapport dans cette justice civile que personne ne connaît parce qu'on est dans le huis clos judiciaire. Les questions sont les suivantes. La première, sur le comportement, l'incrimination du comportement menaçant.
Comportement menaçant.
Sur le comportement menaçant dont parlait Monsieur le Président de Salas, la question que je vous pose par rapport aux trois personnes qui viennent d'être arrêtées à Montpellier, dont l'une vient d'être mise en examen, cette gamine de 16 ans, c'est bien par rapport à un comportement menaçant, ils ne sont pas passés à l'acte. Est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas dû les arrêter? Est-ce que le droit à la sécurité n'est pas un droit fondamental des droits de l'homme? C'est une des questions que je vous pose. La deuxième, c'est de manière plus générale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, la justice est tellement en crise, pas seulement la justice, la démocratie, la famille, tout est tellement en crise qu'il ne suffit pas de mettre des rustines, qu'il faut véritablement réformer le tout. Et je voudrais vous poser une question par rapport à l'ouvrage de Dominique Rousseau, qui est un professeur de droit constitutionnel, c'est pas n'importe qui écrit un bouquin qui s'appelle « Radicaliser la démocratie ». Il fait un certain nombre de préconisations, de fonds, véritablement, pour transformer la justice et la démocratie. Et sur la justice, il dit notamment, c'est la question que je voulais demander, qu'il fallait changer le Conseil supérieur de la magistrature par un véritable Conseil supérieur de la loi ou de la justice, qu'il fallait peut-être même supprimer le ministère de la Justice pour complètement le sortir du gouvernement et qu'il y ait une véritable indépendance, qu'il fallait peut-être complètement enlever l'école de la magistrature, je ne rentre pas dans le détail sur les raisons qu'il invoque,
voir le
Conseil d'État. La question que je vous pose, que pensez-vous des réformes de ce professeur, de ses propositions de réforme, de ce professeur de droit constitutionnel, qui par ailleurs est assez sérieux, et je crois qu'il est dans l'entourage immédiat de Hidalgo, donc ce n'est pas un gauchiste, ni quelqu'un d'extrême droite.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a matière pour nos intervenants.
Je vais être bref, parce que c'est vrai que si je réponds à toutes les questions, je vais laisser de côté la question, mais je ne parlais pas de l'opinion publique, je parlais de la conscience collective, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'appellera pas notre désaccord. Mais sur vos questions tout à l'heure, la France n'est pas le pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a d'autres pays beaucoup plus condamnés que nous.
La Russie et la Turquie.
La Turquie, l'Italie, enfin bon, l'Italie aussi était condamnée et d'autres pays. Donc il y a quand même pas mal d'autres pays qui l'ont été. En ce qui concerne la menace, c'est fait. L'action de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste, c'est une menace. Et le comportement menaçant est incriminé. Donc j'ai pas suivi l'affaire que vous avez évoquée, mais je sais pas si on peut lui appliquer, mais la menace est une incrimination aujourd'hui qui est parfaitement tenue en compte par le parquet. Quant aux réformes proposées par le professeur Rousseau, elles sont effectivement radicales, puisqu'il veut supprimer le Conseil d'État, supprimer l'école de la magistrature, supprimer le ministère de la Justice, excusez du peu. Bref, un grand coup de balai. Je pense que c'est un peu excessif, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il faut aller avec beaucoup... Supprimer le Conseil d'État, je l'ai dit aussi. Il faut aller, si on n'avait pas le Conseil d'État en période d'état d'urgence, quel contrôle aurions-nous eu. Donc voilà, et je pense que c'est un peu vite en besogne, si vous voulez, que de préconiser une suppression en chaîne des institutions. Nous avons besoin des institutions. Pensons d'abord à les réformer pour qu'elles soient meilleures et mettons à leur tête des hommes capables ou des femmes capables, effectivement, de les faire fonctionner de manière intègre. C'est ça, la vraie urgence.
Maître ?
Alors, on a parlé de la justice civile. C'est intéressant parce que vous avez effectivement deux procès possibles. Vous avez le procès pénal qui est le procès de l'État contre une personne qui a violé les règles de l'État. Et puis le procès civil qui est un procès entre deux particuliers. Ce qui m'amène à dire à nouveau, quitte à choquer, que la partie civile n'est pas indispensable dans le procès pénal. Et d'ailleurs, dans toutes les juridictions de droit anglo-saxon, la partie civile n'est pas partie au procès pénal. Elle est témoin, bien entendu, mais après, ce n'est pas le juge pénal qui indemnise la partie civile. Je referme cette parenthèse. Mais si je viens aux affaires civiles, ce sont deux particuliers qui amènent leur affaire devant le juge. Et là, méfiez-vous de ce que vous espérez, mais on a toujours un procès à raconter. Est-ce que le juge doit s'immiscer, doit aller au-delà des faits que vous lui apportez? Si vous dites, moi j'arrive avec mon procès Et après, c'est au juge de faire la vérité avec toutes les investigations possibles et imaginables. Je ne suis pas sûr que tout le monde serait ravi de ça, parce qu'on sait combien les juges sont capables d'être curieux et d'aller tout à fait ailleurs. Et le procès civil deviendrait un peu comme un passage à l'hôpital, on attraperait des maladies nosocomiales et on finirait, etc. Donc l'idée qu'on conserve dans le procès pénal, dans le procès civil, pardon, c'est que chaque partie apporte ses preuves, et puis si elle ne les apporte pas, elle ne gagne pas. Méfions-nous de donner trop de pouvoir au juge aussi, parce qu'on a droit à notre vie privée. Je sais bien que peut-être ça ne plaira pas au moraliste qui est à ma droite, mais on a droit à notre vie privée et on n'a pas à être tout nu en permanence devant les juges et devant les autres. Et si j'ai un procès civil, si j'apporte pas la preuve, eh ben je perds. Voilà. Pour ce qui est des lenteurs de la justice, nous sommes effectivement souvent condamnés, de moins en moins, soyons honnêtes. Ça tient un peu à notre système judiciaire. Parce que c'est au pénal que nous sommes condamnés essentiellement pour les procédures longues, parce que nous mettons d'abord en prison et après on voit. Alors que dans les pays anglo-saxons, la tendance est inverse. Donc il faut étudier les systèmes avant d'être aussi raide dans les condamnations. Alors, vous avez dit quelque chose, en revanche, que j'ai souvent entendu, notamment chez un ancien président de la République, qui était que le droit à la sécurité était le premier des droits de l'homme. Eh bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et il faut arrêter de répandre cette idée. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est une liste de droits fondamentaux qui sont accordés aux citoyens, reconnus aux citoyens face à l'État. Donc, l'État doit assurer ma sécurité, certes, mais ce n'est pas un droit de l'homme que l'État assure ma sécurité. En revanche, si je dis le premier des droits de l'homme, c'est la sécurité, je légitime l'État qui dit « mais je vais m'occuper de vous, je vais m'occuper de vous ». D'ailleurs, il est en train de le faire. Je vais vous formater, vous allez tous être sages, etc. Méfiez-vous, le premier droit de l'homme, c'est pas la sécurité, c'est la liberté. Après, eh bien, on verra. Donc, regardez la déclaration des droits, ce sont des libertés, ce ne sont pas des contraintes. Et moi, ce que je crains, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je persiste à le dire, c'est qu'à force de demander de la sécurité, on perdra nos libertés. C'est Benjamin Franklin qui disait qu'un peuple prêt à abandonner un peu de liberté pour un peu plus de sécurité n'aura ni l'un ni l'autre. Bon, c'est la réalité. Enfin, le livre de Rousseau, je ne l'ai pas lu, mais décidément je ne lis pas grand-chose, mais j'en ai entendu parler. Et supprimer le ministère de la justice, c'est merveilleux, puisque effectivement c'est le seul ministère qui porte le nom d'une vertu, ce qui est tout de même assez étonnant.
Voilà, on va terminer par une dernière question. Je vais prendre celle qui est devant moi. Voilà, il y a même deux micros qui sont prêts à venir.
Si,
je voulais parler bien fort dans le micro.
Je voulais juste faire une petite remarque concernant le statut de la victime. Et la victime peut contribuer à faire avancer le droit, etc. Elle peut le faire, je pense, avancer aussi par les connaissances qui se développent. Je pense notamment aux connaissances médicales et concernant, par exemple, le trauma. Et il y a des psychiatres aujourd'hui qui se battent pour faire reconnaître et pour faire connaître leurs découvertes, comme par exemple Madame Muriel Salmona, notamment sur la violence familiale, tous les traumas qu'on peut même parfois comparer à ceux qui sont issus de traumatismes, à des traumatismes devant devant le terrorisme, etc. Donc il y a des choses qui sont mal connues aujourd'hui, qui, grâce aux découvertes scientifiques, deviennent connues et par suite changent la donne. Et aujourd'hui, il y a des, comme dit Madame Salmona, il y a des erreurs médicales, mais aussi judiciaires, dues à la méconnaissance du trauma. Et je pense qu'il y a là tout quelque chose à creuser, et il faut aller vers ces scientifiques pour acquérir les dernières découvertes de manière à faire avancer positivement la justice.
Merci.
Je suis
Je suis assez d'accord, mais on va creuser notre désaccord avec Maître Ivens.
C'est bien.
Mais c'est le jeu, je crois. Je pense que vous avez raison, parce que le fameux stress post-traumatique, et qui frappe à la fois les victimes d'attentats terroristes, mais aussi les victimes d'abus sexuels, notamment, on l'a vu avec le livre de Flavie Flamand, Consolation, par rapport à la, aux offenses subies par David Hamilton, etc. Bon, ce stress post-traumatique pèse très très lourdement dans le parcours de la victime. Elle ne s'en débarrasse pas facilement, puisqu'on sait que c'est très très long, et l'après-coup est encore plus douloureux que le coup reçu. Donc effectivement, la plainte met du temps à se dégager et à venir en justice. D'où la question de la prescription qui se pose. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à rendre imprescriptibles les abus sexuels intrafamiliaux ou les violences sexuelles pour enfants? Moi, je ne le pense pas, mais certains le souhaitent, précisément parce que ce traumatisme est durable et irréversible, parce qu'on risque d'accroître considérablement l'empire du pénal dans notre société, au point de le faire déborder vers d'autres choses. Donc, essayons de répondre à la demande de la victime, essayons de reconnaître, comme vous l'avez dit, de manière scientifique, ce qu'est ce stress post-traumatique, mais ne demandons pas tout à la justice, et notamment de réparer le préjudice qu'elle subit. Je pense qu'il y a d'autres voies de réparation que le procès qui doivent être effectivement là suivies. Donc essayons de trouver des pondérations par rapport à ça, sans en appeler à une surpénalisation. Et là, je rejoins partiellement Maître Ivens, qui nous ferait déborder, si vous voulez, du champ naturel de la compétence judiciaire.
Maître?
Oui, le procès pénal est fait pour juger la personne qui est accusée d'avoir commis des actes et non pas pour réparer, sauf la restauration qui vient de la condamnation, bien entendu, qu'on voit notamment les affaires d'agression sexuelle. Mais je crois que vous avez parfaitement raison et que votre observation vient à l'appui de la suggestion que je faisais de retirer la victime comme demandeur au procès pénal. Pourquoi ? Parce que dans l'ambiance d'un procès pénal, c'est quand même le crime que tout le monde a sous les yeux et la personne qui va être condamnée, et on discute des faits et des circonstances. Et finalement, le préjudice de la victime est un élément secondaire. Alors que si la victime est là au procès pénal comme témoin pour raconter sa souffrance, évidemment, il ne faut pas du tout supprimer ça, mais pas comme partie et demanderesse de dommages et intérêts derrière, elle est relégitimisée, dans sa qualité de victime, et par ailleurs, on peut prendre le temps, dans un débat annexe, qui n'est pas le débat pénal, de bien prendre en compte son dommage moral avec des expertises, on prend du temps. Vous savez pas comment ça se passe, mais aux assises, on juge la personne d'abord sur le plan pénal. Et souvent, les verdicts sont rendus à 3-4 heures du matin. Bon. Parce que les jurés discutent avec les magistrats qui composent la cour. La cour revient, on condamne, ou on acquitte, mais si on condamne, ce qui est le plus souvent le cas, je vous rassure, tout le monde s'en va, ça y est, c'est fini. Sauf que, souvent, le magistrat dit, bon, allez, maintenant, on passe à l'audience civile. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de public, il n'y a plus rien. Bon, et là, l'avocat de la victime dit, oui, alors je viens réclamer 20 000 euros de dommages et intérêts. Ah bon, d'accord, il est 3h30, 4h du matin, et tout le monde s'en fout, et on lui donne 15 000 euros. En plus, on sait qu'il ne paiera pas. Je ne suis pas sûr que là, le préjudice soit véritablement réparé. S'il y avait un autre débat où on prend son temps avec les mécanismes d'indemnisation qui existent pour les victimes, parce que je dis, lui ne paiera pas, mais il existe des mécanismes d'indemnisation des victimes, par l'État, si on pourrait prendre son temps qu'on ne prend pas dans l'audience pénale.
Très brièvement.
Très brièvement, moi je ne réduis pas la reconnaissance de la victime au dommage-intérêt. Je pense qu'il y a d'autres manières de reconnaître cette parole, notamment de reconnaître un espace d'expression à l'audience, l'entendre tout simplement dans sa demande, et également lui permettre d'avoir des réparations émotionnelles dans l'audience. Donc il n'y a pas que l'indemnitaire, à mon avis, et la motivation finale. Il y a l'ensemble du procès qui doit faire sa place à la victime. Voilà, c'était court, c'est ce que vous demandiez.
Merci. Je remercie en votre nom nos intervenants pour ce qu'ils nous ont dit. On n'a peut-être pas été toujours d'accord avec tout ce qu'on a entendu, mais je crois que ce genre de propos, d'ailleurs à la table même, tout le monde n'était pas d'accord, mais je crois que ça nous aide à nous interroger les uns les autres sur ce qu'on met derrière le mot de justice, et puis aussi à regarder peut-être avec un peu plus d'attention les évolutions de notre société. Donc merci à nos intervenants, merci de votre fidélité. Vous trouverez à la sortie des urnes, vous pourrez déposer votre libre participation aux frais, et puis rendez-vous donc... au mardi 7 mars pour la prochaine soirée d'éthique publique sur le thème « L'alimentation comme défi de santé publique ». Merci et bonne soirée à tous.
C'était bien. C'est très bien. Du coup, c'était vivant. Il y avait des désaccords, la discuter.
Sur des sujets de fond, quand même, sur des
questions. On a argumenté, hein, quand même. Ben, on a réussi notre coup.
Tout à fait.